chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Deuxième chronique d'un regard et d'une œuvre, nous étudions aujourd'hui Edouard Munch, L'œil moderne. Elle a lieu au Centre Georges Pompidou jusqu'au 9 janvier 2012. Alors cette rétrospective a été parfaitement organisée pour mettre en valeur et employer un mot à la mode que j'aime pas beaucoup, la modernité. J'aimerais mieux qu'on dise l'actualité de Munch. Et elle est déclinée en 12 parties que je vous énumère très rapidement. Prologue, reprise, autobiographie, l'espace optique, compulsion, rayonnement, cinéma, le monde extérieur, dessiné, trouble de la vision, le regard retourné. J'étais un peu long. En réalité, c'est très bien fléché, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que pendant tout ce parcours, vous suiviez une sorte de triple fil rouge que vous retrouverez dans toutes ces salles. Premièrement, la méthode de travail de Munch, qui est très particulière. Deuxièmement, sa couleur, qui est définie par le rayonnement. C'est très original. Et la découverte de nouveaux espaces, le tout se terminant par des autoportraits et l'œuvre ultime. La méthode. La méthode de Munch est très particulière puisqu'il reprend des tableaux, il reprend un même thème plusieurs années plus tard. Par exemple, L'enfant malade, 1896, 6 tableaux, le dernier date de 1914. Deux êtres humains, là encore 7 versions qui s'étalent de 1905 à 1934. Pour Vampire, une autre série, 1893-1916, 10 tableaux sur les vampires, deux êtres humains, deux tableaux, et c'est la même pour La puberté et pour Le baiser. Donc, il prend un thème et il est capable de les réutiliser 20 ou 30 ans plus tard, sans copier. C'est la même inspiration, c'est le même style, c'est le même cadrage, si je peux dire, mais les couleurs sont un peu différentes, il y a des variantes, et c'est comme si, à chaque fois, il voulait s'améliorer. C'est très particulier et c'est très différent des autres travaux dans ce genre de choses. Ce ne sont pas les séries dont on a beaucoup parlé, par exemple, à propos de Monet ou des cathédrales ou des peupliers. Non, ça se passe pendant 30 ans. Alors, on s'est interrogé sur cette longueur d'attente d'un tableau à l'autre. On a fait intervenir la mémoire et cette mémoire, elle change. Par exemple, si on prend le tableau le plus connu, qui est L'enfant malade, eh bien, on a cru que c'était la mort de sa sœur, qui est morte très jeune. En réalité, il suivait son père, qui était médecin, et il a vu, dans la salle d'attente, une pauvre fille dans un état effroyable. Et c'est ce tableau-là qui l'inspirait. Mais peu à peu, au fil des années, le thème est fixé, il est repris, et l'inspiration peut aussi changer. Et la dernière série, peut-être la plus originale, s'appelle « Compulsion ». Alors elle est plus rapide dans le temps. C'est 7 à 8 tableaux qui nous interrogent plus, qui est une femme nue qui baisse la tête dans un décor très particulier. Un lit, un espace complètement bouché au niveau du plafond et c'est à ce moment-là qu'il travaille pour le théâtre. Il a beaucoup travaillé pour le théâtre, il connaît bien ces espaces fermés. Et le metteur en scène allemand qu'il faisait travailler, il travaillait lui-même, son atelier, c'était dans le sous-sol de ce théâtre. Eh bien, le metteur en scène lui avait dit, il faut que ça soit une boîte fermée. La salle n'était pas très grande, il faut que le public se sente complètement attiré, aspiré par la scène. Eh bien, ce tableau représente cette aspiration. Alors, qu'est-ce que signifie cette femme nue, tête baissée, répétée 7 fois? On a appelé ça la femme en pleurs. Et comme vous le voyez dans ces thèmes, il y a le baiser, mais il y a aussi le vampire. Donc c'est un homme triste, qui a des histoires féminines compliquées. C'est sûrement un rappel à une femme, Tula Carson, qui 10 ans plus tôt avait été le grand amour de sa vie et un amour plutôt violent. Tout le monde pleure, mais ce qui est important, c'est qu'il reste sur le point d'interrogation. Le lit n'a rien d'érotique. Et au contraire, dans l'œuvre de Munch, le lit est souvent figure de mort. Donc, première originalité, cette méthode très singulière de séries qui vont s'étaler sur 30 ans. Deuxième chose intéressante, la couleur. Ou plutôt, il ne recherche ni le désaccord, ni l'éclat, ni le scintillement, peut-être le reflet, mais surtout le rayonnement. C'est un mot qu'il emploie. et il en a même étudié la physique. Il se fait radiographer sa main en 1902, alors que la première radio au monde publiée par Röntgen, mais c'était à Munich, et je crois qu'à ce moment-là, il tournait autour de Munich. Le premier tableau publié par Röntgen date de 2 ans avant. Donc sa main, il a, comme un jeu, il s'est amusé à la faire radiographier. En fait, c'est pas ça. En fait, ce qu'il appelle le rayonnement, c'est le rayonnement de la couleur et de la couleur dans la peinture. Et il y a 2 toiles majeures pour définir le rayonnement. Le premier, c'est le soleil. Alors, c'est très singulier, c'est une toile centrée par une lumière très vive, donc une lumière blanche, entourée de jaune, et puis peu à peu, on va tourner dans le prisme. Et le décor, et ça c'est très important, l'environnement suit des cercles. Et il revient toujours à l'œil, il dit l'œil émet de la lumière, c'est complètement faux. Mais peu importe, pour lui, le soleil émet la grande lumière et l'œil le reprend. L'œil est un émetteur que nous avons chacun entre nous et qui permet de mieux voir. Alors, un grand tableau donc et un nouvel espace qui s'appelle le soleil, et puis l'opposé, 1922-1924. Vous voyez que son travail s'étale sur des années, nuit étoilée. Alors, là encore, tout rayonne. C'est la nuit, avec un très beau ciel, mais une nuit très claire. On ne voit pas l'avant. Le premier plan est très difficile à définir, il y a simplement vaguement son profil, et tout le reste, c'est une ville lointaine, totalement éclairée, comme illuminée, tout brille, tout reflète. Ça, c'est très, très important. Il ira plus loin. Il essaiera de définir des auras autour de la lumière du personnage. Il étudiera aussi la transparence, parce que là aussi, c'est lié au rayonnement. Et il y a un tableau qui s'appelle « Femme au bain » où tout est transparent. Et puis, de temps en temps, il colle sur la lumière blanche, c'est-à-dire le blanc. Et il y a des tableaux dans la neige, « Enfant dans la rue », « L'homme à la luge ». Eh bien, ce sont des tableaux à plat, complètement à plat, sans perspective, et tout est collé, presque mangé, enterré par le blanc. Donc voilà sa deuxième originalité. Troisième originalité, et on l'a vu apparaître, la création de nouveaux espaces. Alors là, il invente de beaucoup. Bien sûr, il suit la perspective. Et par exemple, elle le conduit. Mais à chaque fois, il a modifié un petit peu. Il y a un tableau très important qui s'appelle le tronc jaune, 2 arbres qui se croisent. L'un suit totalement la perspective, mais l'autre qui le croise ne la suit pas et le regard est dévié vers la droite alors que le tableau s'orienterait plutôt sur la gauche. Même chose pour ses grands chemins. Il a fait beaucoup de chemins. Et parfois, il souligne le chemin, par exemple quand il y a de la neige, neige fraîche sur l'avenue, meurtre sur la route, tout ça sont des chemins. Mais des chemins qui ne suivent pas vraiment la perspective. Elle est toujours un peu truquée. Par exemple, neige fraîche sur l'avenue, on a l'impression que c'est la perspective de la Renaissance, c'est pas vrai. Elle est déviée sur la droite et le fond de la perspective, vous savez, la Renaissance, ça conduit à un point. Eh bien là, ça conduit pas à un point, ça conduit à une espèce de nuage qui va du côté droit du tableau. Donc, la perspective, mais la perspective truquée, modifiée, arrangée. Même chose pour un autre tableau qui s'appelle « La vigne vierge rouge ». Et là encore, la route va dévier sur la droite et toujours en premier plan. C'est un angoissé Munch, c'est un inquiet. Il y a une tête, on ne sait pas très bien ce que la représente. Un tableau qui me frappe beaucoup parce que je suis médecin, c'est la table d'opération. Alors c'est très intéressant parce que Vuillard, grand peintre français, a été fasciné par le bloc opératoire. Tous les artistes détestaient l'hôpital, adoraient le bloc opératoire parce que tout était blanc. Et bien là encore, il joue avec le blanc et il casse la perspective dans un tableau assez méchant. En fait, sa grande découverte de la perspective, et ça de l'espace, c'est ce qu'on appelle l'espace de l'infini. De temps en temps, s'affiche le camp. Et ça, c'est une grande découverte qu'a fait Pierre Schneider à propos de la peinture. Alors, ça remonte à longtemps. C'est Géricault qui l'a inventé, bien sûr, avec la mer et avec sa scène de faux naufrage. Ensuite, c'est Manet. Le fifre de Manet, les pieds ne reposent sur rien. On a oublié de le dire. C'est un nouvel espace qu'a créé Manet. Eh bien, lui retrouve ce nouvel espace. Il le retrouve dans 2 tableaux très spectaculaires. Il le retrouve dans le mouvement. Le cheval au galop, on voit les pattes du cheval en avant. On ne voit pas ce qui se passe en arrière. Et tout le reste, c'est un espace qui est inventé. Un espace circulaire qui fiche le camp, qui est dans le fond de la toile. Et même chose pour un avocat qui marche, qui est un personnage tout à fait comme il faut, très bien habillé. Eh bien, quand il marche, on voit un pied, on voit mal l'autre. Et à cause du reflet sur le sol qui a été très ciré, l'espace fiche le camp en avant. Voyez, ça, c'est une grande découverte. Et là, il se rattache à Géricault, à Manet et à beaucoup d'autres peintres. C'est ce que Pierre Schneider appelle l'espace de l'infini et où l'espace abyssal, c'est un nom un peu plus compliqué. En fait, le grand thème, le seul thème de Munch, c'était lui-même. Il s'étudiait tout le temps, et il a été très malade. Alors, il se peint malade. Et j'ai oublié de le dire, c'est important, il a utilisé le cinéma, il a utilisé la photo, et il y a toute une série de tableaux autour de ses maladies. La première maladie, c'était l'alcoolisme. Alors, il a été hospitalisé volontairement chez un psychiatre, et là, il s'est fait photographier, d'abord avec une bouteille avant, ensuite avec son infirmière, ensuite dans un tableau où on dit 1909, il va bientôt sortir de la clinique, il sera resté 9 mois. Il avait le droit de peindre, il est resté 9 mois. Dans un tableau où il semble avoir trouvé sa sérénité avec un jeu de couleurs très subtiles, la couleur de son vêtement ne correspondant pas à la couleur du fond, la couleur du fauteuil ne répondant pas à la couleur de la fenêtre. Bon, donc premier épisode douloureux de maladie, c'est l'alcoolisme. Deuxième épisode, c'est la grippe espagnole qui a tué des millions de gens en 1919. Il a eu la grippe espagnole. Et là, il y a un tableau terrible où il est complètement déliquescent, qui est centré autour de ses mains qui fichent le camp. On ne voit plus vraiment ses mains. Son visage aussi est complètement lavé. Et il disait à son entourage, faites attention, je sens mauvais, je vais périr. 1919. Et puis, troisième épisode ensuite, c'est une maladie oculaire. L'homme qui regardait, qui était fait pour peindre, a une hémorragie de l'œil droit. Une hémorragie qui l'empêche donc de voir, une hémorragie du vitré. Il ne peut plus voir de l'œil droit. Par contre, survient un phénomène très étrange, mais que les ophtalmologistes connaissent bien. Lui, de l'œil droit, voit des choses particulières. Il voit un anneau, qui est décrit par tous les ophtalmologistes, et dans cet anneau, il voit d'autres formes. Et il dessine tout ça. C'est ce qui est appelé dans l'exposition, et c'est très bien montré, la vision intérieure. C'est l'intérieur de l'œil, c'est pas l'intérieur de l'arme, c'est l'intérieur de l'homme, et on appelle ça l'œil entoptique, ça veut dire l'œil à l'intérieur de soi-même. C'est très rare de voir à l'intérieur de soi-même, seuls ses patients peuvent de temps en temps le voir, et lui le montre dans ses dessins, avec essentiellement une grande tache. Mais cette tache bouge. Sur cette tache, on voit des oiseaux, on voit une tête de mort, on voit une femme qui est agrippée contre un oiseau. Donc, une série de 1930, il a 67 ans, de scènes très dures et il ne résiste pas à l'époque. Et puis la fin c'est merveilleux, c'est la mort et l'œuvre ultime. Alors là, il s'est beaucoup peint. J'ai oublié de vous dire, entre-temps, il a une maison où il est très solitaire. Et il y a un tableau admirable qui s'appelle le Noctambule, 1923, avant l'hémorragie rétinienne, où là encore, il retrouve sur le sol ce nouvel espace, cet espace de l'infini qui monte sur la toile. Alors, les tableaux de la mort, eh bien, il y en a un, il va mourir en 44. Le premier date de 40. Et on voit la lutte de lui-même. Il est raide, il a l'œil latéral et il est coloré et il lutte contre le froid. Il neige dehors, c'est la lutte de la couleur contre le froid. C'est comme s'il était en train de gagner. C'est la lumière contre le givre. Et puis ensuite, malheureusement, ça se dégrade et les formes se dissolvent et il se dédouble. Et il y a un tableau qui est presque juste après, où il est là, les cheveux ébouriffés et derrière une immense ombre qui ne correspond pas du tout à la perspective. Qui est une ombre de profil, alors qu'on le voit de face, il est en train, si je peux dire, de se dissoudre. Et puis, les deux derniers portraits sont très émouvants. C'est l'autoportrait entre l'horloge et le lit. Nous sommes en 44, il va mourir quelques mois plus tard. Alors, il est droit, raide, les mains collées au corps. À droite, un lit avec son écriture, quand il veut représenter quelque chose d'assez banal, il a un jeu de traits qu'on retrouve dans beaucoup de ses tableaux. À gauche, l'horloge. À droite, le lit. Derrière, une chandelle où on voit, ou plutôt on perçoit des tableaux sans savoir ce qu'ils sont, et puis un peu plus loin, au fond de la chambre claire, une porte noire, qui est bien sûr l'endroit où il va aller, c'est-à-dire l'endroit de la mort. Et là encore, c'est très intéressant, il retrouve cet espace de l'infini par le sol. Le sol est lissé, c'est-à-dire il reflète, et on aperçoit dans ce reflet son corps lui-même, comme si il allait, alors qu'il est raide, qu'il est vertical, qu'il est droit, comme si il allait glisser en avant. Quelques jours plus tard, dernier autoportrait qui s'appelle 2h15 du matin. C'est le même. Cette fois-ci, il est assis, mais il va se lever. Il est dans la position d'un homme qui est en train de se lever, et toujours la même chose derrière son fantôme, son ombre. Mais l'ombre est si forte, et elle ne correspond pas du tout à la lumière de la pièce, que en réalité c'est un vrai fantôme qui est derrière. Toujours le même espace, anti-perspective, l'espace de l'infini, où on n'est plus capable de distinguer le sol, le bord de la fenêtre et la rue. Tout ça, c'est lié sur le même plan. Et puis lui, qui est prêt à partir, qui va s'en aller. Il meurt quelques jours plus tard. Alors voilà les grandes particularités de ce peintre qui nous intéresse d'autant, nous, Français, qu'il a été à Paris, il a beaucoup connu la peinture française. En réalité, il n'a été atteint par aucun des mouvements qui étaient importants à la même époque. Il n'a jamais été fauve, il n'a jamais été cubiste, il n'a jamais été lié au monde de l'imaginaire, où son imaginaire, c'est l'imaginaire de lui-même. Il n'a jamais été pointilliste. Il a fait ça tout seul, comme s'il y avait une parenthèse, ou plutôt comme s'il y avait une liaison totale entre la peinture du 19e et du 20e. Il est né en 1644, il meurt vieux, il meurt à 80 ans, il meurt en 84. Eh bien, cette période, c'est comme si cette peinture suivait directement la grande tradition du 19e siècle. Voilà l'essentiel de cette exposition.